Bienvenue, chers frères et sœurs. Donc, ce soir, c'est une émission de partage et d'enseignement avec notre frère, un frère qui nous a rejoint, qui est avec nous, il est depuis la France. Donc, vous savez, aujourd'hui, on bénit le Seigneur pour les nouvelles technologies qui peuvent également servir pour la prédication de l'Évangile. Donc, je vais laisser le frère se présenter. Il s'agit du frère Lloyd. Mon frère Lloyd, comment vas-tu?
Oui, bonjour mon frère Evra, je vais bien, grâce à Dieu, et toi?
Ça va, ça va. Dieu nous garde. On est debout, on se maintient, on tient dans la foi, on avance.
Amen, gloire au
Amen.
Seigneur.
Donc ce soir, comme on a pu échanger pour préparer cette émission, donc ce soir nous allons échanger et partager sur la gratuité de l'Évangile pour à peu près 40 minutes. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc sans plus tarder, on va prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces
Père,
moments.
merci pour ta
Au
grâce.
nom
Au
de
nom de Jésus,
Jésus,
Yahweh, que ton
Père,
nom
nous
soit
prions
loué, glorifié,
véritablement
exalté.
que tu fasses
Nous
grâce,
te recommandons ces temps, ces
que nos
moments, afin
cœurs
que
soient
ta
disposés.
parole soit élevée. Merci pleinement parce que tu es fidèle. Gloire à toi, plus au-dessus, Adonai, au nom de Jésus.
Amen.
Amen.
Donc le thème de l'émission de ce soir, c'est la gratuité de l'Évangile. La gratuité de l'Évangile, pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui, malheureusement, que l'Évangile de Jésus-Christ n'est plus gratuit. Il y a beaucoup de choses dans le domaine évangélique qui fait l'objet de ventes. On a les délivrances qui sont vendues, on aura l'occasion d'en parler. On a les entretiens qui sont vendus, les bénédictions qui sont vendues, les ministères qui sont même vendus. Parce qu'aujourd'hui, on peut être bishop avec 500 $ américains, on peut payer certaines personnes pour être établi bishop. Donc, il y a pas mal de choses qui sont vendues aujourd'hui. On vend l'eau, on vend l'huile, on vend l'eau avec le sel, on vend le sel, on vend l'huile, j'ai cité l'huile. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont aujourd'hui vendues au nom de l'Évangile, au nom du salut. Les délivrances qui sont vendues, les concerts qui sont vendus. Également, les livres qui sont vendus. Donc, nous allons voir à la lumière des Écritures toutes ces choses-là. Donc, mon frère Lloyd, je vais te laisser introduire si tu le souhaites, et puis on va commencer l'enseignement.
D'accord, déjà bonjour et bonsoir à tous pour ceux qui nous écoutent, les très chers auditeurs du niveau de Port-Gentil au Gabon. Je tiens fortement à vous saluer au nom puissant de Jésus. Et c'est un thème qui nous interpelle tous en tant qu'enfants du Seigneur sur concernant la gratuité de l'Évangile. Voilà, parce qu'on voit beaucoup de déboires aujourd'hui dans l'Église. Voilà, l'Église dite dénominationnelle. Voilà, parce que on va pas dire que c'est l'Église de Christ. Voilà, parce que l'Église de Christ, déjà, elle n'est pas visible, elle est spirituelle. Et la parole nous dit que le Seigneur connaît sa véritable Église. Mais après, Dieu utilise les hommes pour que nous puissions être des miroirs vis-à-vis de ceux et celles que nous partageons l'évangile. Donc, aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'évangile. C'est vraiment un thème vraiment intéressant parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ça nous écœure, ça nous choque pour les véritables enfants du Seigneur. Parce que déjà, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle du salut en Jésus que nous partageons partout dans le monde, aux gens. Parce qu'il y a un but. Le but, c'est le salut des âmes. Le but, c'est que les gens, voilà, abandonnent leurs péchés, leur vie de péché pour se rapprocher de Dieu au travers de Jésus-Christ. Voilà, et cette grâce qui est communiquée aux uns et aux autres leur permet d'être libérés. Voilà, et on peut comprendre que cet évangile que nous partageons gratuitement. Voilà, parce que déjà à la base, On a vu le maître qui est notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth, partager l'évangile de façon gratuite. Voilà. Je ne sais pas, Evra, si. Voilà, je me laisse guider hein,
Oui, non,
par le
vas-y.
Seigneur, mais également, je vais dire quoi, canalisé par toi, parce que c'est toi qui organise l'émission. Donc, voilà. Alors, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, voilà, est offerte de façon gratuite à tous, hein, sans distinction de race, de statut social ou de mérite. Vous voyez un peu. On ne peut ni l'acheter, ni le mériter, car c'est un don gratuit de la part de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, je veux prendre un passage, comme voilà, c'est la Bible qui nous met tous d'accord par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Voilà, Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 8. Voilà, la Bible nous dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Bon, déjà, on va lire à partir du verset 7 pour qu'on puisse comprendre l'idée générale. Donc, Jésus parle à ses disciples, il dit, allez. Donc, il donne un ordre, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, ici, on voit Jésus qui dit à ses disciples d'aller et prêcher et dire que le royaume des cieux est proche. Donc, partagez la bonne nouvelle aux hommes. Vous voyez un peu? Et ensuite, il dit au verset 8, guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, vous voyez ce que c'est Jésus qui dit ici, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, on voit que le maître qui, voilà, notre modèle, notre maître, notre père, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui lui, voilà, donne un ordre aux disciples, il dit, allez partager la bonne nouvelle, donc prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et comme notre frère Evra le disait tout à l'heure, aujourd'hui, voilà, on réalise dans le milieu chrétien ecclésiastique, voilà, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de déboires par rapport voilà, à ce domaine-là, dans le sens où les gens ont jumelé l'évangile au pécunier, à l'aspect social ou à l'aspect financier. Voilà, à l'aspect financier, parce que c'est devenu un business, c'est devenu, voilà, c'est devenu un business, c'est devenu, comment on va appeler ça, des entreprises, voilà, mises sur pied pour se générer de l'argent. Pourtant, l'évangile que nous avons reçu est un don gratuit, voilà, qui offre le salut aux hommes de façon gratuite. Donc, il n'y a rien à voir avec l'aspect financier. Donc, aujourd'hui, on voit plusieurs déboires. Voilà, comme je le disais, hein, le salut offert par grâce, donc non par les œuvres. Vous voyez un peu. Donc, dans la pensée biblique, c'est que Dieu qui agit le premier, vous voyez un peu, le salut ne s'obtient pas en payant, d'accord, en payant Dieu, ou s'il faut dire ça comme ça, hein, mais en acceptant plutôt humblement le don par amour. Vous voyez un peu. Donc, c'est l'amour qui fait en sorte que. Voilà, Dieu est venu sur la croix, comme nous dit le livre de l'évangile de Jean, hein, Jean chapitre 3, à partir du verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, voilà, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit que c'est l'amour de Dieu qui pousse, voilà, les hommes à recevoir ce salut-là de façon gratuite. Oui, et dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 8, tu peux aussi lire, hein, mon frère Evra.
Ouais, je peux faire la lecture pour tout le monde. Alors, Éphésiens chapitre 2, au verset 8, il est écrit: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je continue? Pardon, le verset 10?
Oui.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Amen. Donc, on voit au verset 8 du chapitre 2 d'Éphésiens, donc de l'épître d'Éphésiens, on dit, car par la grâce que vous êtes sauvés, donc on est sauvés, c'est par grâce. Ça, c'est un point. Et ensuite, il est dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, donc des hommes, c'est le don de Dieu. Voilà, c'est le don de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est point par les œuvres, voilà, afin que personne ne se glorifie. Donc, on voit en fait que le salut est offert par grâce, donc, et non par les œuvres. Donc, dans les œuvres-là, on voit tout ce que les hommes peuvent mettre en place, d'accord, pour pouvoir dire que, voilà, mettons tel système en place pour que les gens soient sauvés. Bon, aujourd'hui, si la jeunesse n'est pas touchée, c'est parce qu'il n'y a pas le rap chrétien, mais étant le rap chrétien. Donc, aujourd'hui, si, comment on va dire, la jeunesse n'est pas touchée, c'est parce qu'il n'y a pas les choses du monde dans l'église. Donc, mettant les choses, certaines choses du monde dans l'église. Donc, c'est pourquoi on voit la musique du monde maintenant dans l'église, associée à notre volet que le Seigneur permet que je touche. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. Donc, tous ces déboires-là sont rentrés dans l'église. Effectivement, la Bible nous parle de quelque chose de bien précis, mon frère Evra. Si on peut lire. On peut lire Matthieu chapitre 24.
Matthieu chapitre 24.
Voilà qui nous annonçait déjà à partir du verset 11, si tu peux lire jusqu'à 15.
Matthieu chapitre 24, frères et sœurs, vous qui nous suivez, à partir du verset 11, c'est ça?
Oui, à partir du verset 11.
Alors, je fais la lecture. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Amen. Au verset 15, donc ici qui nous parle déjà de l'apostasie, vous voyez un peu, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Donc l'abomination, hein, l'abomination de la désolation, c'est quoi? Effectivement, l'abomination de la l'une des choses qui montre l'abomination de la désolation, puisque là on parle des temps de la fin, et nous sommes dans les temps de la fin, c'est effectivement la gratuité de l'évangile, d'accord, qui a été diluée, qui a été effacée, d'accord, dans le milieu ecclésiastique. Voilà, sur 100% de ce qui se passe actuellement dans le monde de l'Église, d'accord, on va dire près de près de 80%, voire même 90%, d'accord, des choses qui se passent en milieu chrétien sont devenues, d'accord, payantes. Voilà, comme le frère le disait, des prédications payantes, d'accord, comment on va dire, des programmes payants, des concerts gospel payants, etc. D'accord? Entre-temps, ce que nous devons comprendre, c'est que la gratuité engage aussi le croyant. Vous voyez un peu? La gratuité engage le croyant. Pourquoi? Parce que le modèle que nous avons reçu du maître, donc de Jésus, Jésus est venu, il a partagé l'évangile gratuitement. Il a aidé les pauvres, il a aidé les lépreux, il a guéri les gens gratuitement, il a fait des miracles de façon gratuite. Il est allé jusqu'à la croix, comme nous dit la parole, d'accord? Il est mort à la croix pour nous, pour nos offenses, il nous a montré le modèle, d'accord? Mais pourquoi aujourd'hui il y a tous ces déboires? Et comme je le disais, la gratuité engage en fait le croyant. Voyez un peu, car recevoir l'évangile gratuitement, c'est aussi accepter, d'accord, de le partager sans intérêt personnel. Vous voyez? Donc, lorsque nous recevons l'évangile, on a aussi je veux dire, cette responsabilité, d'accord, de le partager aussi sans intérêt personnel, sans manipulation, sans fraude, vous voyez un peu, ni en tirer profit. Donc, lorsque on partage l'évangile, d'accord, on le fait avec un cœur pur, par amour, sans vouloir recevoir quelque chose en retour, vous voyez un peu. Donc, c'est important. Et malheureusement, certains groupes, d'accord, ou ministères ont commencé à commercialiser l'évangile. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez un peu? En vendant des promesses, des bénédictions, ou encore des faveurs spirituelles. Vous voyez un peu? Ou encore, on va dire quoi? Tout en altérant, ou en, je dirais, en trahissant complètement l'esprit du message de Jésus. Parce que ce n'est pas ça le message de Jésus. C'est pourquoi, quand mon frère Evra a lu dans Matthieu 24, verset 11, il a dit que dans les derniers, en fait, il y aura des faux prophètes qui vont se lever. D'accord? Donc des faux messagers. Donc des personnes qui vont venir avec un esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur, mais un esprit corrompu qui partage l'évangile, mais dans leur cœur, il y a la corruption. Et cette corruption-là, d'accord, va venir altérer l'évangile de Christ, l'évangile véritable, l'évangile pur, dont parle la gratuité. Vous voyez un peu? Voilà. Parce que nous n'avons pas payé le Seigneur pour qu'il quitte le son trône, pour venir sur terre, pour prendre le corps d'un homme. Vous voyez un peu? Il a fait de façon gratuite pour nous racheter. Vous voyez un peu? Et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que la gratuité de l'évangile, d'accord, est une démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu. Vous voyez? Donc, si nous, les hommes, on a pu lire ces écrits, voir dans les évangiles comment Jésus a marché, comment Jésus a été au milieu des hommes avant qu'il ne meure, qu'il ne ressuscite, d'accord, et qu'il envoie son Saint-Esprit pour orienter l'Église aujourd'hui. Vous voyez un peu?
C'est ça.
On voit que c'est un amour inconditionnel. D'accord?
C'est ça.
C'est un appel à vivre une foi donnée, reçue, transmise librement. Vous voyez un peu, sans crainte ni profit. Donc voilà ce que le Seigneur, en fait, d'accord, nous a emmené lorsqu'il est venu sur la terre. Vous voyez un peu?
Alors moi, je te
Voilà.
propose, Lloyd, que on va continuer dans le même élan. Ce que je propose, c'est que on fasse un retour dans le passé
D'accord.
pour qu'on puisse montrer aux frères, par la grâce de Dieu, qu'en fait, c'est vrai que le Seigneur a annoncé ces choses, mais avant la venue du
Oui.
Seigneur, il y avait déjà des gens dans la Bible qui s'étaient corrompus par l'argent. En fait, que l'argent, cet esprit-là, parce que dans les textes de la Nouvelle Alliance, on retrouve une expression qui ressort, on nous parle de la voix de Caïn et de la voix de Balaam. Donc, je voudrais qu'on revienne dessus. Donc, frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, on a l'histoire de Caïn. Caïn qui va tuer son frère parce que dans son cœur, il y avait eu la jalousie. Il y avait aussi eu l'envie. Mais ce n'est pas tant de Caïn que je veux parler, je veux parler de Balaam. Balaam, la Bible nous enseigne que Balaam était un vrai serviteur de Dieu. C'était un vrai prophète. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait des véritables visions du Seigneur. Et on le voit dans Nombre chapitre 22. Dans Nombre chapitre 22, dans le contexte historique, on a le peuple d'Israël délivré par Dieu qui traverse pour aller à Canaan. Ils vont arriver et ils vont dire à Balaam que nous, on veut juste traverser ton pays, il n'y a pas de problème, c'est juste ça notre objectif. Et Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il craignait que ce peuple-là ne l'envahisse. Il va décider d'aller, enfin Balak, pardon, parce que Balaam c'est le prophète, mais Balak qui était le roi de ce territoire, va aller faire appeler Balaam qui était un prophète, lui dire, viens et maudis-moi ce peuple, car celui que tu maudis, je vous donne les références, hein, vous pourrez lire à la maison. Vous l'avez dans le livre de Nombre 22, vous avez cette histoire-là. Et Balak va faire appeler Balaam. Et Balaam va dire que... alors, on va quand même le lire. C'est quand même édifiant. On va lire quelques passages. On est dans Nombre 22. On l'est à partir du verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents. On note bien ça à l'esprit, des présents pour le devin. Et quand on lit en fait 1 Samuel 16, on nous dit qu'à l'époque, celui qu'on appelle le prophète aujourd'hui s'appelait à l'époque le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam avec des présents et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Donc il n'est pas allé consulter le diable, hein, c'est bien Dieu qu'il allait consulter. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Vous voyez?
C'est ça.
Il dit que Dieu refuse de le laisser aller. C'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Il fallait qu'il répète simplement ce que Dieu lui a dit. En fait, il avait déjà reçu des présents. Les présents qu'on lui a donnés, il n'est nullement fait mention que Balaam avait rejeté les présents de ces gens-là. Alors, au verset 14, on dit, et les princes de Moab s'élevèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs plus grands, en plus grand nombre, pardon, et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi. Ouais, que l'on ne t'empêche pas. Donc, qu'on ne t'empêche pas. S'il avait dit que ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine parce que Dieu a dit que ce peuple est plus fort que vous, ils auraient eu une autre mentalité en fait. Et au verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Qu'est-ce qu'un roi peut faire pour donner à un homme beaucoup d'honneur? Beaucoup d'argent, des services, des serviteurs et des servantes à l'époque, c'était ça? Des biens, des bœufs, des moutons, des chameaux, de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes, des tissus en cramoisi et tout ça. C'est ce qui était dans l'esprit de Balaam. Balaam répondit et dit au serviteur au verset 18 de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Séduction. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'éteignait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam frappa de nouveau l'ange. La frappa de nouveau, pardon. Verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace ou se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui s'éteignait sur le chemin, son épée nue dans la main et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Je vais m'arrêter là. Voilà un homme qui avait l'habitude de voir les visions de Dieu, qui s'est même retrouvé en train de parler avec une ânesse, en fait qui ne s'est même pas rendu compte. Et quand on lit le livre de Jude, on nous dit que Balaam en fait avait été déjà frappé de folie. Il était déjà fou en fait. Et donc en fait cet esprit-là, qu'on retrouve aujourd'hui par rapport à la commercialisation, on a des gens comme Balaam, en fait, qui symbolisent ça clairement dans la Bible.
Bien sûr.
On a un autre personnage dans la Bible qui est Géasi. On n'aura pas l'occasion de lire, mais c'est pour édifier les frères, qui était serviteur d'Élisée.
Ouais, deux rois.
Voilà, dans le livre de deux rois. Et alors que Naaman... Deux rois 5. Merci pour la référence. Deux rois 5. Si tu souhaites, on peut le lire, si tu as un verset particulier.
Oui, on peut lire 2 Rois 5,
je te laisse faire la
verset lecture. 26 à 27. Alors, la Bible nous dit au verset 26, 27, c'est pratiquement à la fin, mais sinon, les frères et sœurs peuvent lire tout le chapitre. Et il est dit au verset 26, mais Élisée lui dit, mon esprit, bon, on va, tac, 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 tac. Bon, je vais lire à partir de verset 19, qu'on ait un bon contexte. Élisée lui dit, va en paix. Donc, ça, c'est la rencontre entre Élisée et Naaman, le roi, qui est plutôt le chef général, qui était malade, qui était lépreux. Et que Élisée n'a pas voulu prier pour lui. Et lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, donc on précise bien homme de Dieu, donc Géasi était un homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Donc, il avait apporté des présents, des grandes richesses. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Mm-hmm. Verset 21, Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi, deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils de prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre deux talents. Il le pressa et il sera deux talents d'argent, dont deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Verset 24, arrivé à la colonne, Géasi les prit, à la colline, autant pour moi, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. On voit le mensonge, tout comme avec Balaam. Donc on voit le mensonge, l'esprit de mensonge qui avait déjà pris leur cœur. Et l'amour de la part du gain. Et au verset 26, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de le prendre et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà, mon frère, tu peux continuer.
Alors, ce qui est bien dans les deux passages qu'on a lus, l'histoire de Naaman et l'histoire de Géasi, c'est que je bénis Dieu parce que tu as ressorti les deux éléments caractéristiques, l'appât du gain et le mensonge. Et c'est ce qu'on retrouve en fait chez toutes les personnes qui vendent l'évangile. Bon, de façon générale, on va nuancer après parce qu'il y a quelques personnes qui vendent l'évangile par ignorance, mais de façon générale, ceux qui vendent l'évangile le vendent consciemment. Ils savent qu'ils vendent l'évangile, ils savent qu'ils utilisent des méthodes et donc ils utilisent le mensonge. Tu vois?
C'est ça.
Parce qu'ils ont l'appât du gain pour tromper le peuple de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé parce que l'histoire des Géasi, Naaman est venu avec des biens pour donner à Élisée. Élisée a refusé de prendre ses biens. Il s'est dit, mais on ne peut pas laisser partir autant de biens, autant d'argent et puis ne pas prendre une partie. Comment Élisée a quel problème? Comment on peut avoir de l'argent comme ça et on laisse ça? Et il est allé mentir à Naaman. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas accepté que les gens-là l'accompagnent jusqu'à la maison parce qu'il avait peur que Élisée les voie et qu'Élisée comprenne. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Dieu, l'Esprit de Dieu qui était en Élisée, donc Dieu avait vu la chose et avait révélé cela à Élisée, que Naaman, que Géasi était tombé dans le vol. Et à la fin, on voit bien que la lèpre s'est attachée à Géasi. La lèpre, quand le peuple d'Israël était dans le désert, quand quelqu'un avait la lèpre, cette personne était écartée, il était mis à part. Donc la lèpre ici symbolise aussi le rejet de Dieu, hein. C'est le
C'est
rejet de
ça.
Dieu, c'est donc Géasi avait été
L'égarement.
rejeté par Dieu, c'est l'égarement. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention avec cette affaire de commercialisation. Ici, je m'adresse à mes frères qui sont pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, anciens. En tout cas, les ministères, les responsables d'église doivent faire attention avec cette affaire de vente d'évangile parce qu'ils s'exposent en fait à l'esprit d'égarement, en fait, comme ça a été le cas pour Géasi et Balaam. Donc, avant qu'on ne passe à autre chose, de comment ça se matérialise aujourd'hui dans les églises, je te laisse la
Non,
parole si tu souhaites
on peut
rechercher
encore
dessus.
ajouter, hein, mon
Vas-y.
frère Evra, par rapport à ce que tu as dit. On a aussi un autre qu'on appelle Simon le magicien,
Ah ouais.
dans Actes chapitre 8, versets 9 à 24. Actes chapitre 8, versets 9 à 24. Il est dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était influent. Verset 11, ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc Philippe, l'évangéliste, a annoncé l'évangile de façon gratuite en Samarie. Vous voyez? Et on dit au verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, donc, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient, donc de façon gratuite. Et on dit au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivé chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez un peu? Donc on voit ici quelqu'un qui a été touché par l'évangile, qui a été, en fait, il a été séduit par l'évangile, donc il a voulu offrir de l'argent à ceux-là qui exerçaient d'accord, la grâce du Seigneur. Ceux-là qui exerçaient l'évangile de façon gratuite, qui guérissaient de façon gratuite, d'accord, qui imposaient les mains aux gens de façon gratuite et recevaient le Saint-Esprit. Donc lui, il a été étonné. Et dans nos temps, il y a des gens comme ça qui voient qu'il y a des personnes, ah, cette sœur, elle chante bien, tout ça là, et ils arrivent avec des millions pour que, voilà, corrompre la grâce qui est dans ta vie. Frère et sœur, toi qui m'écoutes, toi qui a une quelconque grâce que tu mets, d'accord, au service du Seigneur, au service du corps, d'accord, faut savoir que dans ce monde ou dans ce milieu dans lequel nous sommes, d'accord, il y a des gens comme ça, d'accord, qui sont séduits par la grâce, par le chant que tu, par la grâce du chant que tu as, par la grâce de la guérison, des miracles, des prophéties que tu as, des visions que tu as, d'accord, d'accord, la grâce par rapport à la parole que tu as, qui viendront comme Simon le magicien, comme ça, te proposer de l'argent. Regardez ce que Pierre dit à Simon au verset 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc on comprend que le don de Dieu, comme je l'ai dit au départ, que l'évangile c'est un don de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu. Donc le don de Dieu, quand on parle de don, c'est quelque chose aussi de gratuit, d'accord? Quand on dit on va aller faire un don à tel orphelinat, c'est-à-dire on va donner à cet orphelinat-là de façon gratuite par amour, d'accord, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc c'est ce que Pierre et Jean faisaient, que Simon le magicien, d'accord, en retour voulait acheter. Et ils disent que ton argent périsse avec toi. Voilà, toi qui as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a, au verset 11, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc comprenez que toutes les personnes, d'accord, qui vendent l'évangile, qui, d'accord, utilisent l'évangile comme si c'était un produit, d'accord, au fond, pour ceux qui sont conscients, leur cœur n'est pas pur. Pour ceux qui ne sont pas conscients, ils se disent que bon, on se réfère, d'accord, à ceux qui ont l'habitude de faire. Donc ils le font par habitude ou ils le font parce qu'ils ont vu les autres faire. Vous voyez un peu? Et il dit au verset 22, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes et villages des Samaritains. Amen. Donc
Amen.
ici, on réalise que il y a aussi des gens comme Simon le magicien. Il y a aussi un autre passage dans Matthieu 21, verset, on va le prendre rapidement. Matthieu 21, verset 12 à 13.
Je vais le lire.
Qui dit ceci. Ouais, vas-y.
Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.
Oui, et vous en faites une caverne de voleurs. Donc ici, on voit des commerçants qui étaient venus vendre des pigeons. En fait, les pigeons, les animaux, tout ça, c'était pour le sacrifice au temple. Vous voyez, parce que les gens avaient besoin de ces animaux-là pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais Jésus le savait. Mais il le faisait dans le temple. Donc c'est comme, d'accord, c'est une image, hein, remplaçant les pigeons, les animaux-là par des livres bibliques. Remplaçant ces choses par des bibles, par exemple. Des bibles, des livres bibliques, je ne sais pas, des huiles, je ne sais pas,
De l'eau, le
de
sel.
l'eau, des trucs comme ça. Le sel, donc remplacez ça par ces objets-là. Et voyez ce que Jésus dis maintenant, d'accord, à ces personnes qui le font dans l'église. Vous voyez un peu? Donc, c'est deux images qui sont identiques. L'image qui est au temps de Jésus et celle qui se passe actuellement en notre temps. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire que cet esprit rôde depuis des siècles, depuis près de 3000 ans, cet esprit-là rôde dans les assemblées. Vous voyez un peu? Au travers de plusieurs courants. Vous voyez? Donc, on voit plusieurs faux prophètes et on voit les apôtres le dénoncer, dénoncer ses méthodes, ses façons de faire, notamment Pierre, hein, dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, au verset 1 à 3. Il dit ceci, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de la parole, de leurs paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine ne sommeille point. Vous voyez un peu? Donc ici, l'apôtre Pierre était déjà en train d'avertir à l'Église, d'accord, qu'il va y avoir effectivement, d'accord, des gens comme ça dans l'Église de Christ, des personnes qui trempent, qui sont là rien que pour l'argent. Vous voyez un peu? Pour le gain, pour l'appât du gain. Vous voyez? Et dans d'autres passages, on dit qu'il y a des gens qui sont là rien que pour leur ventre. Hein, mon frère
Ouais,
Evra.
ils ont pour Dieu leur ventre.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Je pense que c'est dans le livre de Romains
Ouais.
qui en parle.
C'est
Ouais,
vraiment.
ils ont pour.
C'est vraiment grave, quoi. C'est grave.
Oui, c'est grave étant donné que on a reçu un modèle et le modèle a été déformé.
On a
Le
Philippiens
modèle,
3 qui
c'était
en parle. Philippiens 3, verset 19.
oui. Ok, vas-y.
Philippiens 3, la Bible nous dit, alors je vais remonter plus loin, plus haut pour comprendre. La Bible nous dit au verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc ici, on
Amen.
a le cas de ces personnes-là, on nous dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur confiance dans les choses de la terre. Et comment on peut souvent les identifier? J'anticipe un peu, et on va faire la
Oui.
transition, c'est que ces gens-là, ils mettent leur confiance dans les choses de la terre. Un, deux, on a vu les deux premiers aspects qu'on a cités, ils sont attachés déjà à la cupidité, d'accord? Ils sont dans le mensonge. Et vous allez voir souvent qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Comment vous pouvez constater? Alors, moi j'aime illustrer parce que mon travail, c'est les chiffres. Alors, mon frère Lloyd, imagine une église qui a 300 fidèles, comme on les appelle, et qui fait rentrer en moyenne par mois, je dis bien par mois, hein, c'est-à-dire là je minimise, en moyenne par mois 50 000. Ça fait 15 millions par mois. 15 millions par mois, si on multiplie par 12, ça fait 180 millions. Si tu multiplies par 10, ça fait 1 milliard 800 millions. Comment une église qui a 300 membres, qui a des membres, il y a des cadres d'entreprise, des techniciens supérieurs, des gens, on va dire en moyenne, si tu prends celui qui donne 200 000, 400 000 d'offrandes, tu prends celui qui donne 10 000. En fait, en moyenne, ça fait 50 000. Je mélange là-dedans les séminaires, les actions de grâce, les offrandes prophétiques qu'ils ont inventées, les offrandes de prophètes, les offrandes de ceci. Donc, en moyenne, 15 millions le mois. Tu vois? 180 millions l'année. Quand on voit déjà une église qui a ce genre de chiffre d'affaires, ce genre d'entrée, et qui pendant 10 ans continue même à louer pour le local là où ils se réunissent, c'est un signe clair et évident qu'il y a du vol là-dedans.
C'est ça.
Il y a du vol là-dedans, frères et sœurs. Parce que comment vous pouvez expliquer qu'une église qui fait rentrer autant d'argent n'arrive pas au moins à minima à pouvoir se construire quatre murs d'église, parce que un bâtiment d'église, c'est quatre murs, hein, à la limite avec les murs des toilettes, peut-être un bureau pour les entretiens, ça ne nécessite pas d'énormes moyens, on va dire maximum 60 millions, c'est réalisé. Donc en 10 ans, si avec 1,8 milliard d'entrées, on n'arrive pas à mettre 60 millions de côté pour pouvoir construire un bâtiment pour se réunir, ou même construire un bâtiment pour pouvoir héberger des pauvres, les orphelins, il y a des questions à se poser. Donc ça, ce sont les éléments, par exemple, qui nous permettent d'identifier. Tu vois? Et c'est des signes. Quand on voit des serviteurs de Dieu, nos frères, pasteurs, évangélistes, docteurs et tout le reste, qui ne travaillent pas, mais qui ont un train de vie opulent, ben c'est le signe que ces gens-là, ils ont déjà basculé.
C'est ça. C'est ça. C'est comme je disais en fait, mon frère Evra, je disais en fait que la gratuité engage le croyant, donc la personne. Tu vois? Et ce qu'on doit comprendre, c'est un sujet qui est assez sensible. Tu vois? Dans beaucoup de personnes, en fait, tombent, en fait, qui, en fait, dépassent les limites, parce qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, en réalité, nous devons en fait faire une distinction entre le message de l'évangile qui est gratuit, tu vois un peu, et les moyens humains mis autour pour diffuser la parole, tu vois un peu.
Ouais, c'est ça.
Voilà, parce que qui peut, en fait, la parole qui peut avoir un coût, tu vois un peu, un coût financier. Par exemple, organiser un concert, tu vois, ça demande des moyens. Une conférence, ça demande des moyens. Un événement religieux, hein, ça implique souvent la location de la salle, des chaises, la sonorisation, l'éclairage, la communication, la logistique, des trucs comme ça, tu vois un peu. Et ça, on peut comprendre, tu vois un peu. Hein. Si on demande par exemple des moyens financiers aux frères et sœurs pour dire, bon, nous voulons organiser un programme, une campagne d'évangélisation, voilà, il y a une caisse, une corbeille pour ça. Ça encore, à la limite, c'est biblique. Tu vois, parce que, en fait, tous ces programmes-là demandent une certaine organisation financière. Tu vois. Maintenant, ce qui devient problématique, c'est quoi? Ce qui devient problématique, que le premier cas que je présente, c'est juste. On peut justifier. Donc, on a organisé, on a pris une corbeille, les frères et sœurs ont cotisé, on a loué une salle, la sono, les chaises, on a donné temps pour véhiculer l'évangile qui est gratuit. Donc, l'entrée, elle est gratuite, hein, l'évangile qui est diffusé est gratuit et qui se fait pendant le programme est gratuit. C'est justifiable par rapport aux finances qui sont sorties. Maintenant, par contre, ce qui devient problématique, c'est quoi? C'est quand l'argent devient une barrière, c'est-à-dire une barrière ou un objectif à atteindre. Je m'explique. C'est quand, en fait, l'accès au programme spirituel, tu vois un peu, est réservé uniquement à une belle entrée, tu vois, sans alternative pour les autres qui ne paient l'entrée. Tu comprends un peu?
Oui, je comprends.
Là, à ce niveau, ouais, c'est à partir de là que ça devient de l'avant, l'évangile. Tu vois, c'est-à-dire que l'évangile qui est annoncé pendant ce programme est réservé à la catégorie de ceux qui ont payé. Tu vois, à ce niveau, d'accord, il y a un danger problématique. Tu vois, un peu, qui n'ont pas accès à l'évangile.
Alors,
Ou un peu.
je pense qu'on a
Comme
quelques petits
pas.
problèmes de réseau. Le temps que le réseau se stabilise, je vais te redonner la parole. Mais en plus, quand même, pour également ajouter un point sur le fait de donner pour effectivement des besoins d'évangélisation, de diffusion de l'évangile, on doit aussi également veiller, même dans la diffusion de l'évangile, à ne pas faire des dépenses qui sont, on va dire, excessives. Par exemple, chercher forcément à faire super beau. D'accord? Par exemple, dépenser, je prends un exemple, 6 millions pour louer une scène. Tu vois, le podium sur lequel on va prêcher. C'est juste le podium. Tu vois? C'est-à-dire que avoir des dépenses aussi qui soient rationnelles, conduit par le Saint-Esprit, avoir beaucoup de sagesse, même dans la diffusion de l'évangile, pour ne pas avoir des
C'est
dépenses qui
ça.
soient excessives. On invite un frère pour un programme, il vient pour prêcher, on va lui prendre un billet business class qui coûte 4 millions, on va le loger dans un hôtel 5 étoiles qui va coûter peut-être 300 000 la nuit, on va lui louer un VX qui va peut-être coûter 150 000, 200 000 par jour, tu vois, et on va lui donner un cachet peut-être des 5 millions pendant qu'il est là. Ça, même si c'est pour la diffusion de l'évangile, ce n'est pas correct. On est quand même d'accord là-dessus.
Justement, c'est à ce niveau que je dis que ça devient problématique. Je pense que tu m'as pas permis de m'étaler un peu, mais tu as tout dit. C'est à ce niveau que ça devient problématique. Pas juste au niveau des organisations, de certains programmes qui empêchent les autres de rentrer, d'autres qui ont de l'argent de rentrer, mais aussi à ce niveau que tu as expliqué par rapport aux hôtes qu'on invite pour les programmes, pour même les intervenants qui quittent dans d'autres pays. Ça, ce sont des choses qu'il faut, en rapport avec les autres, dans une bonne entente, de vraiment équilibrer les choses dans la sagesse. Voilà, parce qu'en même temps aussi, on ne va pas inviter quelqu'un pour lui faire dormir, tu comprends un
Oui, non,
peu,
bien sûr.
dans une porcherie, dans un truc, mais apporter un certain équilibre dans la gestion de l'organisation. Ouais, un peu. Et voilà. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on ne monétise pas la grâce, c'est ce qu'on est en train de comprendre.
Ouais.
Hein, on ne vend pas aussi ses expériences spirituelles, non, c'est à cause de l'huile d'onction que je mets là, que j'ai eu telle grâce, donc venez acheter l'huile d'onction, ça, c'est vraiment monétiser des expériences, ces
Alors,
expériences personnelles.
en parlant de
Donc, il y a beaucoup de
monétisation,
personnes.
il y a peut-être un aspect qui est moins visible pour nous ici au Gabon, c'est la monétisation des vidéos. Alors, pour toi qui es en France, c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans le milieu chrétien, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ont des chaînes YouTube et qui monétisent, c'est-à-dire qu'au travers des vues qu'ils ont, il y a de la publicité qui est vendue sur leurs vidéos et en fait, ils touchent des revenus que YouTube leur reverse par rapport aux vues que les chrétiens ont sur les vidéos. Je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça.
Non, mais enfin, mon point de vue par rapport à ça, il est clair. Parce que si tu t'entends déjà avec YouTube, en réalité, c'est une organisation qui n'est pas chrétienne. Hein, c'est une organisation qui fait son business. C'est comme je le disais, hein, l'évangile, d'accord, c'est un don gratuit reçu par le Seigneur. Tu vois, ce n'est pas un produit qu'on vend. Entre-temps, YouTube, les publicités, c'est en gros, c'est comme des produits qu'on vend. Donc, si un ministère accepte qu'une publicité passe chez lui et qu'on YouTube le vend, c'est qu'il y a un problème. Tu vois un peu?
On est bien
Maintenant,
d'accord.
de l'autre côté, il y a des gens de façon personnelle qui ne sont pas en contact avec YouTube, qui monétisent leur chaîne parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour soutenir leur vision. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'acheter un casque, un micro. Un ordinateur pour pouvoir partager l'évangile, etc. Tu vois un peu où s'acheter, comment je vais dire, chaque fin du mois, certains logiciels. Donc, il y en a qui le font, voilà, pour pouvoir soutenir la pensée qu'ils ont, pour pouvoir faire avancer la pensée qu'ils ont. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre sur la balance. Pour éviter qu'on aille du côté extrême de la gratuité.
Ok, très bien. Ben, on arrive bientôt au terme de l'émission. Donc, je pense qu'on a pu aborder l'origine, on a pu aborder aujourd'hui comment les choses se présentent. On va évidemment atterrir en finissant par des conseils de la parole, hein, à la fois enfin, pour tous les chrétiens, pour ceux qui sont des leaders religieux, mais également pour les frères et les sœurs. Qui sont dans les églises, qui n'ont pas forcément cette responsabilité dans les églises, c'est-à-dire c'est pas des leaders. Donc on va atterrir par ça et puis terminer. Donc qu'est-ce que tu souhaites dire?
J'aimerais prendre un passage dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, au verset 5. Je vais d'abord au verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, m'entendent priver de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Tu vois un peu? Et croyant que la piété est une source de gain. Donc, il y en a qui pensent que, c'est-à-dire qu'ils ont bâti leur ministère en pensant que, avec ce ministère, ils vont devenir riches. Avec ce ministère, ça va leur donner, ils vont devenir influents. Avec ce ministère qu'ils construisent, ils vont avoir des grosses villas, ils vont avoir des grosses maisons, ils vont avoir comment on va dire, des Weston, des grandes vestes, des grandes marques. Ils vont devenir quelqu'un dans la vie. Vous voyez un peu? Voilà, laisse-moi vous dire que si la pensée de votre ministère ou la base de votre ministère, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, vous avez déjà raté la vision, la véritable vision qui est la vision céleste, celle, d'accord, de présenter Christ, celle de présenter le royaume des cieux. Parce que il est clair ici, hein, au verset 5, la vaine discussion d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité, donc ils sont déjà privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Ouais, donc il y a des ministères qui sont nés comme ça pour faire le business. C'est ça que nous étions en train de parler, pour faire le business. Hein, et c'est ça que je vois certaines personnes au Gabon, dont je ne veux pas mentionner son nom ici, parce que c'est déjà quelqu'un qui est en train d'égarer le peuple du Seigneur. Je pense que le Seigneur permettra un jour que ce monsieur soit confondu. Donc, quelqu'un comme ça qui passe dans les médias, dire que les pasteurs sont faux, c'est des voleurs, c'est ceci, c'est cela. Il a des preuves, il expose les gens ici et là, il va partout dans la sous-région. Vous voyez un peu, c'est normal parce que effectivement, il y a des faux qui ont basé leur ministère, d'accord, sur l'appât du gain. Mais au verset 7, il est dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul est en train de dire qu'on ne doit pas s'attacher à ces choses. Vous voyez un peu? Et il dit, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc, en gros, ça sert à quoi? Vous voyez un peu? Et il dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc on voit que ceux qui basent leur appel, leur ministère, leur concert, leur vision sur l'appât du gain, sont déjà loin de la pensée de Christ, sont déjà loin du socle du sens même de l'évangile, d'accord, de la quintessence même de l'évangile, d'accord? Et c'est la perdition et l'égarement pour beaucoup aujourd'hui, hein? Quand on voit toutes ces personnes-là, prédicateurs, chantres, etc., l'argent, 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 d'accord? Tout autour de ça, c'est l'argent, sans vraiment dissocier les choses et prendre la responsabilité, d'accord? On réalise que beaucoup, voilà, se sont égarés se sont égarés vraiment de la vision. Donc, comme point de chute, ce que je voulais dire, voilà, faisons attention par rapport à la grâce que Dieu nous donne, voilà, de ne pas, je veux dire quoi, de ne pas jouer avec le don que le Seigneur nous donne, voilà. Nous avons reçu gratuitement, donnant aussi gratuitement l'évangile que nous avons reçu. N'imposons pas aux frères et sœurs, voilà, de nous donner de l'argent, des biens parce que nous prêchons l'évangile. Non. Si des frères et sœurs veulent nous donner quelque chose pour nous encourager, qu'ils le fassent de façon libérale, voilà, avec le cœur, voilà, pour soutenir un frère, un ministère, etc. Ils doivent le faire de manière libérale, sans imposer quoi que ce soit, d'accord, aux frères et sœurs, et qui, après, ça devient compliqué et on finit par entrer, voilà, dans l'amour de l'argent, qui vient altérer la grâce, qui vient tuer la grâce, qui vient compromettre la grâce, et on finit par sortir de la pensée du Seigneur. Voilà, donc faisons attention à l'amour de l'argent, faisons attention au fait qu'on associe toujours dans ce qu'on veut faire pour le Seigneur l'argent. Voilà, donc c'est à nous d'être responsables, de dissocier. Voilà, l'argent et l'évangile. Voilà, savoir mettre à quel moment l'argent doit intervenir dans l'évangile et à quel moment il ne faudrait pas que ça intervienne, de peur de sortir de la volonté du Seigneur, comme Balaam et tous les autres. Voilà un peu ce que je voulais dire comme point de chute.
Merci mon frère. Moi, je vais atterrir avec le passage de Jacques chapitre 2. Ce sera notre dernier passage et puis on va dire au revoir au frère. Jacques chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit: Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous point en vous-même une distinction et ne jugez pas vous sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pèche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ici, le passage est clair, hein, parce que c'est quelque chose qu'on remarque dans les églises. Parfois, il y a des concerts avec des places super VIP, VIP, et puis le peuple. Voilà, c'est des choses qu'on doit éviter dans les concerts, dans les choses. Voilà. Maintenant qu'on comprenne que, par exemple, ceux qui sont là pour organiser, les dirigeants, soient devant pour pouvoir, par exemple, communiquer, ou bien assis au même endroit, même si c'est derrière, parce qu'ils ne sont pas forcément aussi obligés d'être devant, mais qu'ils soient ensemble pour pouvoir communiquer pour l'organisation, c'est une chose. Voilà, mais on doit éviter tout ce qui crée les distinctions, les classes dans l'Église. Parce que dans l'Église, nous sommes un seul corps. Et Dieu nous voit tous ensemble comme étant un seul corps. Il est vrai que nous avons tous des dons différents, des grâces différentes, mais devant le Seigneur, nous ne sommes que un seul peuple. Et Dieu nous regarde tous vraiment de la même façon. Donc arrêtons de faire par l'argent, parce que ce passage aussi nous amène à comprendre que justement par rapport à la gratuité de l'évangile, quand on en parle, mais ça nous renvoie aussi à justement cet esprit de cupidité, à prendre des gens qui sont élevés socialement, mais qui n'ont pas véritablement un appel du Seigneur pour les placer responsables dans des églises, parce que on veut pouvoir avoir de l'argent avec ces personnes. On tue ces personnes-là qui sont arrivées, qui doivent grandir, qui doivent connaître le Seigneur, mais également les personnes qui le font se détruisent elles-mêmes par rapport à leur ministère devant le Seigneur. Donc, on a lu suffisamment de passages. On a lu Matthieu 10 qui nous indique clairement que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, frères et sœurs, c'est cela. On ne peut pas tout dire. On a essayé de tirer au-delà de 40 minutes qu'on avait prévu. On a fait 1 heure pour essayer de vous donner le maximum d'informations. Le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses vous donnera les éléments complémentaires. D'autres enseignants et d'autres prédicateurs que vous écouterez, ou d'autres enseignements que vous écouterez ici sur cette chaîne de radio, Réveil Radio, Radio Réveil vous donnera également d'autres éléments. Donc, mon frère Lloyd, merci d'avoir participé à cette émission. On a été pleinement bénis par ta
Merci à toi.
présence. Donc, que le Seigneur nous
Amen.
garde, et
Seigneur
puis
soit béni.
si tu peux prier pour la fin, pour recommander ces moments, et on va se dire au revoir.
Père, au nom de Jésus, nous te rendons la gloire parce que tu es fidèle. Merci pour ces temps que nous venons de passer avec toi, pour ta parole puissante. Yahweh, je prie qu'un cœur, Seigneur, soit réceptif à ce message afin que ta parole produise du fruit. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que la vérité revienne dans les cœurs, dans les églises, Seigneur mon roi, et que l'évangile, Seigneur mon roi, soit dorénavant gratuit, Seigneur, comme il a été dès le commencement. Que ton nom soit béni, Seigneur glorifié. Yahweh, je prie dans le nom de Jésus que, Seigneur, cette radio de réveil, Seigneur mon roi, prenne un envol, Seigneur mon roi Père. Selon ta pensée, ta volonté, que ça bénisse, Seigneur mon roi, Port-Gentil et les habitants de Port-Gentil, afin que ton nom soit élevé. Merci de te servir de cette radio, de cet instrument, afin que, Seigneur mon roi, l'évangile rentre dans les cœurs, dans les familles, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Shalom à tous et à très bientôt.
Comme ça, enregistre en wave, le wave est très lourd.